C'est l'heure de Local Actu, l'information en Périgord sur RLP.
Bonjour à tous les auditeurs de RLP, nous sommes avec Jean-Louis Bagot, notre bénévole libre-penseur de l'émission Libre-Pensée, avec un invité, Franck Merlin. Je vous laisse vous présenter tous les deux.
Alors, Franck Merlin-Anglade, je suis membre de la section de la Ligue des droits de l'homme du Grand Périgueux et je suis membre du Conseil national de la Ligue des droits de l'homme.
Et Jean-Louis ?
Oui, Jean-Louis Bagot, oui. Donc, effectivement, les auditeurs de RLP me connaissent un petit peu, puisque chaque lundi, j'anime l'émission qui est réservée donc aux libres penseurs de Dordogne. Et donc, je suis membre de la commission administrative du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée, donc en Dordogne. Et aujourd'hui, bon, c'est un jour important pour nous, puisque le 9 décembre, c'est l'anniversaire de la promulgation de la loi de 1905, dite de séparation.
Dites de séparation des églises et de l'État.
De séparation des églises et de l'État, c'est bien la formule des églises et de l'État, tout à fait.
Donc avec un événement prévu aussi à Coulon-et-Chamier.
Oui, c'est ce soir, mais je propose qu'on commence par lire, parce que c'est un événement qui est au plan national, hein, avec des initiatives un peu partout. Et au plan national, plusieurs associations ont publié hier soir un communiqué commun par rapport à cette journée. Donc c'est important parce que ça cadre vraiment parfaitement ce qu'est cette journée. Je propose d'en donner lecture, ce n'est pas très long, hein. Donc déjà, les organisations qui ont co-signé ce communiqué commun, ce sont la Ligue des droits de l'homme, la Fédération nationale de la libre pensée, Solidarité laïque, l'Union rationaliste et la Vigie de la laïcité, dont j'ai eu l'occasion de parler plusieurs fois, hein. Donc ce communiqué commun est titré « Pour une laïcité de liberté et d'émancipation ». Et en voici le texte. « La LDH, Ligue des droits de l'homme, et la Fédération nationale de la libre-pensée, la Vigie de la laïcité, Solidarité laïque et l'Union rationaliste ont cessé de rappeler leur attachement à la loi du 9 décembre 1905, loi de liberté et d'émancipation. Leur opposition à toute modification substantielle remettant en cause l'esprit de ce texte fondateur de l'identité républicaine s'inscrit dans une perspective plus large de défense de toutes les libertés publiques. Or, force est de constater que, sous la pression d'une lecture idéologique imposée par une partie de la classe politique et par certains chroniqueurs ou polémistes, relayés par des médias à la ligne éditoriale douteuse, se confirme une dérive sécuritaire parfois même teintée de xénophobie, qui n'a rien à voir avec la laïcité telle que reprise par notre Constitution de 1958. Pour certains, la laïcité doit se muer en marqueur identitaire au travers d'un élargissement de la neutralité de l'administration publique à, potentiellement, l'ensemble du champ social. Ainsi, la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, c'est son titre officiel, dite loi séparatisme, vient encore renforcer les contraintes imposées au nom d'un ordre public à l'exercice des libertés fondamentales réduites à de simples proclamations. Elle ne modifie pas moins de 17 codes et un certain nombre de lois essentielles. Nombre de libertés publiques s'en trouvent affectées. Liberté de conscience et de culte, liberté d'expression, liberté d'association, droit à l'instruction, libre administration des collectivités territoriales, le déféré laïcité qui vient ironiquement prendre place à côté du référé liberté, accroît la capacité offerte aux préfets de contrôler les actes et décisions des collectivités territoriales. Le contrat d'engagement républicain, CER, que toute association qui sollicite une subvention publique doit signer, vient contredire le caractère libéral de la loi de 1901. Les nouveaux contrôles pesant sur les associations cultuelles tendent vers un régime d'autorisation préalable, contre-productif et attentatoire au principe de séparation. La LDH, Ligue des droits de l'homme et la Fédération nationale de la libre pensée, la Vigie de la laïcité, Solidarité laïque et l'Union rationaliste s'inquiètent sur le devenir d'une laïcité devenue aux yeux des pouvoirs publics un instrument de contrainte et de conformation. Plus que jamais, elles dénoncent les dévoiements et dérives qu'elles constatent dans le débat public et affirment leur volonté de défendre la pleine laïcité, principe non partisan de liberté et de paix civile. Voilà, fin donc de citation de communiqué. Et je pense que bon, Franck, comme représentant de l'ADIAGE, peut peut-être dire quelques mots là sur la question de la remise en cause des libertés associatives, hein, dont on a vu que depuis quelques mois, c'était une réalité, malheureusement.
Faut peut-être reprendre un petit peu le début de la pelote. Faut peut-être définir, tu as parlé de la loi de 1901. C'est une des plus grandes lois de la Troisième République. Elle définit effectivement que elle consacre la liberté d'association et crée un régime fondé sur le principe d'égalité des associés. Et ça, elle se caractérise dans un cadre peu contraignant et permet effectivement à tout un chacun de se réunir et de s'associer, et que l'association soit culturelle ou non. Ça pouvait être des associations sportives, culturelles, etc., etc. Et elle autorise effectivement toutes les associations en 1901 à réclamer des subventions de l'État. Donc, dans l'État, les subventions ont toujours et de tout temps été encadrées par la demande et par la fondation et le caractère de l'association. Cette loi quasiment universaliste ne met pas de limite quant au rapport aux religions. Ça n'existe pas encore. C'est effectivement quand on travaille sur la loi de séparation de l'État et des Églises qu'en 1905, on extrait effectivement les organisations cultuelles de cette loi de 1905 qui était excessivement libérale. Donc, effectivement, ça pose problème aux organisations cultuelles, aux églises. Et cette loi sera modifiée en 1907, où effectivement, on crée des associations, un élément de création d'associations de droit commun à objet culturel. Et donc, ensuite, en 1923, on a, à la demande du Saint-Siège, c'est-à-dire qu'effectivement, là, on peut quand même se poser la question, c'est le pape qui intervient pour que les associations cultuelles puissent recouvrer des droits, notamment un accès aux subventions, que la loi de 1905 leur avait supprimé. Et donc, on voit effectivement que entre la loi de 1905 qui ferme l'accès aux subventions aux associations culturelles, depuis l'Église catholique n'a fait que d'essayer de manipuler le principe de la loi de 1905 pour échapper à cette contrainte. Et on arrive, il y a quelques étapes successives entre-temps, mais on arrive effectivement à cette loi. Dite de contrat d'engagement républicain, qui est faite en fait uniquement le législateur a constaté que pour qu'une église, quelle qu'elle soit, puisse toucher des subventions déguisées, il suffisait qu'elle inscrive son association sous le régime de la loi de 1901. Et après, elle pouvait détourner le pognon, détourner l'argent. Pour construire des lieux de culte. Ce qui n'est pas autorisé en France. On peut subventionner des activités d'associations telles que les Scouts de France ou le Secours catholique, qui sont des associations confessionnelles, mais à but non cultuel. C'est-à-dire que le Secours catholique est un Secours catholique, mais l'objet du Secours catholique est d'apporter du bien-être à l'ensemble des gens, qu'ils soient catholiques ou non. Le législateur a remarqué que, effectivement, il y avait deux structures qui, par leur nouveauté et qu'elles sont obligées de trouver des biais pour ramasser de l'argent, c'était effectivement la religion musulmane et aussi, surtout, les églises pentecôtistes, etc., toutes les églises, les églises, voilà, protestantes évangéliques. Et on s'est aperçu que effectivement, il y avait beaucoup de manipulation d'argent par ces deux structures-là pour se permettre de se financer. Et donc, ça posait un problème d'égalité devant la loi, comme quoi on ne peut pas toucher des subventions ou faire venir de l'argent pour s'en servir pour construire une religion qui, en plus de ça, promeut parfois des discours qui sont contre la République. Et donc, M. Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, a pensé qu'au lieu de légiférer uniquement sur cet élément-là, financier, il a préféré produire une loi qui donnait une contrainte à toutes les associations. Et ça, c'est inadmissible. Et donc, la loi d'engagement républicain définit effectivement que, a priori, toutes les associations seraient coupables de ne pas être républicaines. La plupart des associations sont des associations qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement de la République, qui fonctionnent dans la République, mais qui relèvent du domaine privé ou du domaine du droit commun, et qui n'ont aucun lien avec, effectivement, des problèmes de laïcité. Et donc, soumettre l'ensemble des 1 300 000 associations qui n'ont rien à voir, parce que la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État, c'est pas la séparation des églises, de l'État et du monde associatif. Et donc, soumettre effectivement à des contraintes comme ça l'ensemble du monde associatif, sans qu'on ait de cadre en plus de ça, parce que personne n'est capable en France aujourd'hui, au regard de l'ensemble des manipulations que la laïcité a fait l'objet, le texte original, hein, personne n'est capable de dire où se trouve la laïcité. Il suffit de demander à un quidam dans la rue ou une quidam, pour vous, qu'est-ce que c'est que la laïcité? On aura 1000 définitions. Et donc, ça met un point de pression politique, sociale, etc., sur l'ensemble du monde associatif qui est absolument intolérable. Et donc, c'est pour ça que toutes ces associations-là, qui a eu cette déclaration, qui renouvelle effectivement son désaccord avec cette loi de contrat d'engagement républicain. On n'a pas besoin d'un contrat d'engagement républicain pour être républicain. On l'est par nature. En France, l'essentiel des associations, 99,9% des associations ont une pratique qui s'inscrit dans le droit français, parce qu'elles n'ont pas le choix, et qui s'inscrit effectivement d'une pratique sociale qui nous est indispensable. Et donc, elles sont républicaines par nature. Voilà ce que, comme introduction, ce qu'on pourrait dire là-dessus, parce que ça remonte à loin, en fait, cette déconstruction de l'ensemble de ce que cette loi dit, quand, du rapport d'autorité et de culpabilité par rapport au monde associatif.
Franck Jean-Louis, est-ce que vous avez des exemples de mise en application de cette loi de contrat d'engagement républicain? Par exemple, l'association Alternatiba?
Oui, oui, c'est un excellent exemple. Et alors, déjà, une petite précision auparavant. Il y a deux départements dans lesquels le déféré laïcité a été utilisé donc pour mener à la dissolution d'associations ou à des mesures coercitives contre des associations. C'est les départements de l'Hérault et de la Vienne. Et ce sont deux départements qui ont une caractéristique, c'est que les préfets en exercice dans ces départements sont ce que j'appelle des préfets Macron, c'est-à-dire des préfets qui ont été nommés hors du cadre du corps préfectoral et des énarques, qui est donc le dispositif qui est à partir duquel étaient désignés les préfets. Et Emmanuel Macron a pris des dispositions lui permettant de recruter des préfets hors de ce corps préfectoral. Donc ces deux préfets qui sont des préfets vraiment sur mesure, nommés sur mesure par rapport aux souhaits du président de la République, se sont fait remarquer en prenant des dispositions dans l'Hérault où des associations qui mettaient en place des écoles coraniques ont été dissoutes, et l'association Alternatiba, effectivement, qui est à Poitiers. Alors, pour rappeler à nos auditeurs, hein, je crois en avoir parlé dans une chronique, mais on va rappeler quand même rapidement. Alternatiba, c'est une association qui intervient dans le champ de la lutte contre, je dirais, les dérives qu'on constate suite à la transition climatique, etc., qui intervient sur ce domaine-là et qui organise dans des grandes villes des expositions avec des stands sur toute une série de sujets. Cette association a reçu de la part de la ville de Poitiers une subvention de 10 000 euros et le préfet, passant par-dessus la mairie de Poitiers, demande à la maire de Poitiers de récupérer les 10 000 euros de la subvention au motif que parmi les dizaines de stands mis en place par l'association Alternatiba, il y a un stand où il y a un débat organisé sur les questions de la désobéissance civile, donc quelque chose qui serait profondément anti-républicain. Voilà. Alors, on voit jusqu'où ça mène cette loi, ce dispositif qui est inclus dans la loi dans la loi séparatisme, hein, dans la loi confortant les principes de la République, qui est utilisée donc pour dissoudre toute association dont le discours ne plaît pas. Dans l'Hérault, ben, c'est pareil, hein, c'est une affaire extrêmement importante puisque il y a eu un discours très idéologique contre de l'État, hein, contre une association pour les centres d'apprentissage de l'islam pour les enfants, ce qui est à peu près l'équivalent pour les catholiques du catéchisme. Et quand on regarde de plus près les démarches qui ont été faites sur le plan judiciaire, il n'est nullement question d'idéologie qui serait contraire aux principes de la République. Ce sont des dispositions liant à des travaux d'aménagement réalisés sans autorisation administrative, enfin quelque chose qui est complètement en dehors des pratiques d'endoctrinement qui seraient reprochées par le préfet. Donc, c'est le frénésie de mise aux normes des bâtiments qui sert pour dissoudre une association. J'irais si le maire de Montpellier, ou le préfet plus exactement de l'Hérault, prenait les mêmes mesures vis-à-vis de tous les bâtiments insalubres du département, eh ben, ça serait des dizaines de logements qui devraient être mis en état, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'insalubrité dans le logement dans ce département. Alors, on voit comment s'entremêle avec la loi séparatisme la remise en cause, j'irai de la loi de 1901 sur les associations, de la loi de 1905, parce que fondamentalement, cette loi de séparatisme est une loi qui est faite par les gens qui sont, comme représentants de la République, tenus au principe de neutralité que prévoit la loi de 1905, qu'ils ne respectent pas souvent eux-mêmes, et qui veulent imposer aux associations qui ne sont pas concernées par la loi de 1905 le respect des principes de laïcité, alors que le domaine des associations, c'est le domaine privé qui est régi par la loi de 1901. Voilà. Et ça attaque également la liberté de l'enseignement, et notamment l'enseignement à domicile, où là encore, au motif d'enfants qui restant chez eux seraient en dehors de l'école de la République, on en vient à interdire de fait quasiment tout enseignement de l'enfant hors du cadre scolaire. Je rappelle que même si on dirait couramment que l'école est obligatoire, ce n'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. Et que donc on aboutit à toutes ces dérives par rapport donc aux libertés fondamentales qui ont été créées par ces lois qui ont été promulguées à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, et sur lesquelles repose, comme l'indiquait Franck, tout les bases finalement du fonctionnement de notre société dans une république égalitaire, respectueuse des libertés qui ont été conquises donc à cette période-là et qui, depuis une bonne vingtaine d'années, sont sérieusement remises en cause. Alors, à partir de là, hein, puisque je pense qu'on va peut-être se diriger vers la fin de l'interview, il faut effectivement qu'on parle de la réunion à laquelle, en commun avec la Ligue des droits de l'homme Grand Périgueux, nous appelons ce soir à la réunion qui se tiendra donc à la Maison des associations de Coulommiers.
Voilà. Non, je voulais rajouter une chose, c'est que le contrat d'engagement républicain tient effectivement la ligne de la laïcité, mais tient aussi d'autres lignes qui définiraient par exemple l'égalité homme-femme, qui définirait effectivement un comportement social plus général. Alors moi, je rigole toujours quand je vois effectivement qu'on obligerait effectivement les associations à avoir un comportement d'égalité homme-femme, dans le sens où, par exemple, dans une petite commune à côté de Poitiers, visiblement Poitiers doit rassembler beaucoup d'énergie, il y a un club de roller derby. Un club de roller derby. Le roller derby peut être mixte, il peut être masculin et il peut être uniquement féminin. Un club de roller derby demande une salle pour faire du roller derby féminin, c'est un sport à patins roulettes, et on le refuse au nom du fait que ce ne sont que des femmes et que, au nom du contrat d'engagement républicain, le groupe n'est pas mixte. Donc on arrive comme ça à des délires. Il suffisait simplement de dire non, on n'a pas le temps, ou je ne sais pas, trouver un autre argument. Mais utiliser l'argument du contrat d'engagement républicain qui parle d'égalité homme-femme dans son texte pour refuser le prêt d'une salle de sport à une association purement féminine, on en arrive effectivement à un contournement effectivement de l'usage d'une mauvaise loi qui fait que la vie en société va devenir excessivement compliquée. Il y a un observatoire de la vie associative qui s'est monté sous l'égide du Haut Conseil à la vie associative, qui est une commission nationale consultative qui vérifie effectivement, parce que tous les organismes pour vérifier la vie des associations existaient bien avant ces chartes qu'on veut nous imposer, parce qu'on veut nous faire croire effectivement que les choses n'étaient pas gérées avant. Les choses ont toujours été très gérées, que ce soit à l'attribution de subventions ou voire même au fonctionnement même des associations. On est un pays de droit, de loi, et donc il n'est pas utile de produire des lois de contrôle sur une structure qui était déjà contrôlée par elle-même, avec une qualité de fonctionnement indéniable, hein, au regard de la vie des associations en France. Je rappelle 1 300 000 associations en France qui géraient parfaitement le rôle social qu'elles ont dans notre société et qui n'avaient pas besoin effectivement qu'on leur soumette un contrôle absolument invraisemblable. Voilà, je voulais rajouter ce petit détail. Voilà, et il y a d'autres cas qui arrivent parce que d'une façon ou d'une autre, le contrôle étant exercé par les politiques. Parce que c'est eux qui distribuent l'argent. On va avoir un rapport comme ça de chantage qui va s'effectuer sur l'ensemble du monde associatif qui, dans un futur, pas très éloigné, va s'avérer catastrophique.
Eh bien, merci.
Voilà,
Merci,
ben on ne
Franck.
peut que conseiller à nos auditeurs de venir ce soir. J'ai rappelé quand même l'heure et le lieu, hein, pour la réunion. Réunion débat public ce soir, donc ça sera l'occasion de discuter, de prolonger la discussion qu'on a eue ici. C'est à 19h à la Maison des associations de Coulounier. Donc, je redonne l'adresse de cette association. C'est 362 avenue Wilson-sur-Chille à Coulounier. On mettra un petit panneau devant, hein, pour bien le repérer pour les personnes qui ne connaissent pas. Venez discuter avec les représentants de la Ligue des droits de l'homme, de la Libre Pensée et puis peut-être d'autres associations qui seront présentes, des questions que nous venons d'évoquer rapidement. Merci à Radio Libre en Périgord pour
Merci Jean-Louis.
cette émission.